Il y en a qui appellent le Nord. On habite du côté de Poitiers. On habite dans un village, vous savez comment il s'appelle ? Il s'appelle, le village dont nous habitons avec Claudine s'appelle Consacré, l'Éternel fait grâce et il délivre. Notre village s'appelle Consacré, l'Éternel fait grâce et il délivre. Ça, c'est la traduction de son nom en hébreu. Il s'appelle Saint-Jean de Sauveur. Et quand on est arrivé là-bas, on a vu là une porte ouverte. Une porte ouverte dans ce que Dieu voudra. Pourquoi ? Parce que nous avons vendu notre maison il y a quelque temps, que nous avions là en Charente-Maritime, et nous avons circulé, vécu en camping-car pendant de nombreux mois. Ce n'était pas prévu au programme. Mais les choses sont passées comme cela avant que nous décidions de racheter un pied-à-terre tout en continuant à circuler un peu partout. C'était un changement de vie radical parce que vous vous retrouvez dans un endroit assez restreint, mais de cet endroit restreint, vous usez d'une liberté qui est extraordinaire. Il faut être deux d'accord pour vivre ainsi, chose que nous avons faite. Et aussitôt que les choses se sont mises en place, on a compris ce que Dieu voulait et pourquoi il voulait que nous vivions ainsi. Au travers de nos périples, toujours en restant dans notre pays de France, nous avons circulé dans différentes villes, des villages, des aires de camping-car. Nous avons rencontré un nombre considérable de personnes avec qui nous avons pu parler, partager l'Évangile. Et je disais tout à l'heure à Frédéric, je dis jamais, 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 personne ne nous a envoyé promener. Jamais. Pour nous, c'était un changement extraordinaire, mais aussi une réjouissance glorieuse parce qu'on se sentait et on se sent toujours aussi à l'aise. D'abord, on dort mieux dans notre camping-car que dans la maison. On se sent tellement à l'aise quand on va à droite et gauche. Dans cette liberté d'annoncer l'Évangile à ces gens qu'on rencontre sur le bord d'une plage, devant des toilettes publiques, dans des magasins, quels qu'ils soient, des grandes surfaces, des gens qui font la manche sur le bord de route, des camping-caristes qui arrivent sur les airs ou ailleurs, par le partage d'apéritifs, que sais-je, devant, dans des rues, devant un temple ou n'importe quoi. Toutes les occasions nous ont été données, Dieu nous a fait grâce, de pouvoir avoir cette simplicité d'annoncer la parole et de pouvoir partager avec eux le salut, l'éternité. Beaucoup m'ont dit, tu sais, beaucoup de personnes d'un certain âge, bon, nous, on a 65 et 67 ans, mais on rencontrait des gens beaucoup plus vieux que nous. Et beaucoup m'ont dit, ouais, mais tu sais, on en a moins à faire qu'on en a fait. C'est-à-dire qu'on penche plus du côté de la balance qui s'en va, comme j'ai entendu cette information qui m'a été avant-hier, plus vers les chrysanthèmes que vers les dragées. Si je ne me trompe pas, je ne sais pas s'il est là, Yves, il est où ? Est-ce qu'il est là ? Il est au fond, il est où Yves ? Yves, t'es où ? Bon, il faut qu'on se voit tout à l'heure, j'aurais quelque chose à te dire. Et on a été surpris avec Claudine de ces gens que nous avons rencontrés parce qu'on a vu une détresse à un point que vous ne pouvez imaginer. Alors beaucoup croient que les gens qui sont en camping-car ou qui vivent comme ça, on connaît des gens qui vivent en camping-car depuis 20 ans, les gens pensent Ah, ils ont un camping-car, ils sont bien, c'est pour aller se balader, ils sont joyeux, ils ont des sous et tout ce que vous voulez. Mais à vrai dire, on s'est rendu compte qu'il y avait une détresse, une misère qu'on est loin de s'imaginer. Loin, loin, loin de s'imaginer. Des gens venaient nous voir, et on parlait avec eux, et au bout de 3 minutes, les gens nous racontaient leur vie, leur misère, les décès dans leur famille, leur maladie. On a rencontré des gens qui trafiquaient, mais pas sympas, enfin bref. Mais on s'est aperçu que là, au-delà de ce que l'on peut voir avec nos yeux et de ce que notre tête peut imaginer, il y a une misère dans ce domaine, mais qui a fait que l'ouverture nous a été donnée, que Dieu nous a fait grâce pour pouvoir annoncer la parole avec amour, amour pour les âmes. Parce que là, tu comprends que ces gens que tu as devant toi, s'ils te parlent ainsi, s'ils t'expriment leur misère, leur combat, leur lutte, leur incompréhension, les déchirements de leur cœur, c'est parce que Dieu te demande de leur parler. Alors c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Pendant des mois et des mois. Alors on a racheté un logement, on a racheté une maison, mais toutes les occasions sont bonnes pour reprendre et repartir en route. Là, ici, nous allons repartir lundi, et puis après, au mois de septembre, on repart. Et on va aller faire un tour, certainement en Bretagne, on va aller voir là-bas. Parce qu'on nous a toujours dit, la Bretagne, c'est dur. Eh ben, on va y aller quand même. Mais comme partout, et ça, si vous voulez, ce n'est pas le thème de ce que je vais vous parler. Mais c'est une parole d'encouragement. Et vous dire que si tu te confies en Dieu, il ne te laissera pas au chômage. Parce qu'il te donnera une occasion. Et il te mettra sur le cœur ce que tu dois faire. Moi, si on m'avait dit, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 40 ans en arrière, Daniel, tu vas acheter un camping-car et puis tu vas aller là-bas et puis annoncer, partager, témoigner la parole, c'est pour un autre. Parce que ce n'était pas ma tasse de thé, comme on dit. Je n'étais pas dans cette optique-là. Je voyais les choses d'une manière différente. Et puis là, quand on m'a dit, quand mon épouse m'a dit, ce serait bien qu'on achète un camping-car, j'ai regardé un petit peu de travers, quoi. Enfin, pas de travers, j'ai regardé. Et puis on y est allé. Et dès l'instant où on l'a eu, d'abord le premier camping-car qu'on a eu, on a eu un clin d'œil de Dieu. Parce que le camping-car était à nos initiales tous les deux. CWDW. Alors, à partir de là, si tu ne comprends pas qu'il y a une direction divine, tu as une chance sur combien de trouver un comme ça. Enfin, voilà. Et alors, donc, pour vous dire que au travers de tout cela, il y a quelque chose que j'ai réalisé. Enfin, pas que j'ai réalisé, que je voudrais aussi vous transmettre. Et cette transmission, c'est celle-ci. Dans énormément de foyers de ces gens que nous avons rencontrés, beaucoup ont changé de mari, beaucoup ont changé de femme. Une majorité excessive sont avec quelqu'un d'autre, ils ont refait leur vie. Ils sont divorcés, ils sont séparés, ils sont à droite, à gauche. Beaucoup ne parlent plus à leurs enfants, beaucoup ne connaissent même pas leurs petits-enfants. Ça, ce n'est pas de la détresse, parce que nous, on vit dans notre coron, là, on est bien. Mais je pense qu'il n'y a pas que les camping-caristes qui vivent comme ça, il y a d'autres, beaucoup d'autres. Et ce matin, je vais partager certaines choses avec vous qui n'ont pas de commune mesure par rapport à ce que je suis en train de vous dire, mais quand le Seigneur a mis ça sur mon cœur hier matin, j'ai dit, Seigneur, c'est peut-être... Enfin bon, vous allez me dire, Daniel, c'est un peu bête. Qu'est-ce, tu veux que je leur dise ça? Est-ce que c'est ce qu'on parle dans un culte? Alors là, tu remets les choses en place. Et Dieu, ce matin, je priais encore, on priait avec Louis, on priait hier, on priait avec Frédéric, Claudine hier, etc. Et ce matin, j'ai dit à Claudine, le Seigneur m'a donné deux signes. Mais à vrai dire, après que je lui ai dit, le Seigneur m'a donné deux signes de ce que je devais partager avec vous, il y en a eu deux autres qui se sont rajoutés. Alors je me dis, si Dieu m'a montré à quatre reprises, en l'espace de quelques heures, qu'il fallait que je partage certaines choses avec vous, c'est parce qu'il a ses raisons. Moi, je ne les connais pas. D'abord, je ne vous connais pas, j'en connais bien sûr quelques-uns, ça. Mais moi, intérieurement, je ne sais pas ce qui peut y être en vous. Je ne sais pas. Alors, je me suis arrêté, et puis, quand il y a eu une occasion favorable un jour de parler avec des gens, il y a eu tout un concours de circonstances qui a été fait que ces gens circulaient, alors on priait régulièrement, on priait tous les jours pour notre vie et les rencontres qu'on pouvait faire, et Dieu a toujours honoré notre prière. Et on priait un matin. Je sors et je vais faire le plein d'eau, pour ceux qui savent. Moi, je vais faire mon plein d'eau, je vais chercher quelques bouteilles d'eau, pas le plein du camping-car, quelques bouteilles d'eau à la fontaine. Là. Et là, il y avait un couple qui était là, 75 ans, qui est là, 75-72 ans, les deux. Et il me dit, nous, on vient de, bon, voilà, de Poitou, enfin, de Charente, etc. On parle ensemble un peu. Puis il me dit, ben, toi, t'es où? Ben, je dis, on est là, celle est là. Et puis il me dit, en tant que t'es là, ben, on lui dit, ben, nous, on était sur l'île d'Oléron à cette époque-là, on est resté un mois dessus, là-bas. Et puis il dit, ouais, on est là, mais nous, on vit dedans. Ah bon, tu vis dedans? Ben, il me dit, écoute, est-ce qu'on pourrait se voir pour que tu nous donnes des conseils, savoir comment que ça se passe, etc., pour les impôts et compagnie. Ben, je dis, ouais, on me dit, viens boire l'apéritif, Claudine, enfin, avec ta femme, ce midi. Donc, on a pris l'apéritif ensemble. L'après-midi, ils sont venus chez nous pour. Enfin, je dis chez nous, mais c'est en coming out, parce qu'on disait chez nous. Et viens chez nous avec ton épouse, et puis on boira le café ensemble. Et puis, au bout d'un temps, pas très long, plutôt court, et on annonce la parole de Dieu, et tout le temps qu'on parle avec eux, c'était un monologue, et ils écoutaient. Et quand j'eus fini de parler, le gars, il regarde sa femme, il nous dit, tu sais pourquoi on est venu ici? Il dit, parce que hier, on a rencontré un homme, alors qu'ils étaient sur une autre aire de camping-car, on a rencontré un homme qui est venu vers nous et il nous a dit, je suis un homme de Dieu, il faut que vous alliez sur le camping des huîtres, là-bas sur l'île d'Oléron. Et il me dit, il est parti. Il me dit, on arrive là, on se rencontre au point d'eau, on prend le café ensemble et vous nous annoncez l'évangile. Après le partage, j'ai expliqué qu'ils ne parlaient plus à leurs enfants, qu'ils ne connaissaient pas leurs petits-enfants. Un déchirement, mais des caractères. Cluny a longuement parlé, continuait à les entendre par téléphone, on est passé chez eux, du côté d'Angers, là-bas. On a été les voir avec tout un concours de circonstances aussi. Et les choses ont été conduites comme ça pour qu'on se retrouve chez eux, mais d'une manière extraordinaire, miraculeuse. Et là, Cluny lui a dit, mais tu sais, si tu veux voir tes petits-enfants, mais elle n'arrive pas à franchir le cap. Mais elle dit, prie pour tes enfants, prie pour tes petits-enfants, et Dieu ouvrira la porte, tu les retrouveras. Et Claudine, un jour, cette personne nous a appelés, en nous disant, enlève-toi moi ce que je vois pas. Mon fils, ma petite-fille, et mon arrière-petit-fils, fille, sont là, sont dans leur maison. Vous comprenez que il y a détresse dans les cœurs, mais de ce que si personne ne te le dit, tu ne le sais pas. Si personne ne te le dit, tu ne le sais pas. Et alors, je disais, mais Seigneur, tout cela, ça nous amène à comprendre et à réaliser beaucoup de choses, parce que tu te dis, si tous ces gens vivent, beaucoup de personnes vivent dans les séparations et ont dû changer de conjoint, et qu'ils ont divorcé, séparé, pour des raisons X, Y, qui refont leur vie à droite, à gauche, etc. C'est que ça veut dire quoi? C'est que ça veut dire que, quelque part, comme la parole de Dieu le dit dans Genèse 2,24, c'est dur de devenir un couple. Parce que Dieu dit, l'homme s'attachera à sa femme, et les deux quoi ? Deviendront une seule chair. Et vous savez, non, pour ceux qui aiment bien chercher dans la parole de Dieu, vous regarderez, mais dans les textes originaux, c'est marqué, et les deux deviennent une seule chair, pas deviendront. C'est pas pareil. Et ça vous ramènera, si vous cherchez, parce que aussi, on ne va pas vous dire, vous cherchez aussi, hein, vous allez voir tous les rapprochements qui peuvent être faits entre simplement ce verbe présent et les deux deviennent une seule chair. Et pourquoi ils deviennent une seule chair? Et quelles sont les conséquences de devenir une seule chair? Ça, c'était simplement une parenthèse. Alors, les couples sont ainsi qu'ils... On est les uns les autres en friction par moment. Et quand on rencontre des gens et qu'on parle avec eux, alors je vais reprendre une expression qu'on a prise hier, on entend, alors ça va bien dans ton couple, avec ta femme, avec ton mari, oh, on est sous la grâce de Dieu. Et puis tout va bien, on est heureux. Et puis de l'autre côté, t'as le mari ou la femme qui, lui, est dans son coin, et puis il n'y en a qu'un seul qui parle, l'autre qui ne dit rien. L'autre qui ne dit rien, mais il n'en pense pas moins. Il n'en pense pas moins. Pourquoi il n'en pense pas moins? Parce qu'ici, que l'autre, ce qu'il dit, ce n'est pas tout à fait vrai. Et que souvent, il y a de l'eau dans le gaz. Souvent, il y a des déchirements. Souvent, il y a... même dans nos milieux, ah, je ne sais pas si c'est un bon... terme, nos milieux chrétiens, je ne sais pas si c'est vraiment un bon terme, mais aussi, il y a séparation, il y a divorce, il y a conflit, il y a tromperie, dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Il y a méchanceté, il y a insulte. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le couple est la cible du malin. Le couple est la cible du malin. Et s'il parvient à détruire un couple, s'il arrive, il détruit la famille, il détruit un homme, il détruit une femme, il détruit des enfants, il détruit des petits-enfants, il détruit la communion avec Dieu, il met en oubli toutes les œuvres et les bénédictions que Dieu a apportées. Tout cela est effacé. Tu remets en place, il y a une remise en place du péché que tu avais abandonné. Et ça, on l'a rencontré. On l'a vu. On a suivi des gens comme ça. Et souvent, c'est des thèmes qu'on n'emploie pas. C'est des sujets qu'on n'aborde pas, ou alors en catimini, parce que c'est un sujet un peu brûlant. Et je disais ce matin, hier matin, Seigneur, parler comme ça. Nous aussi, on a galéré. Je peux vous dire. On a galéré, on ne pouvait pas savoir. Et on disait encore à Fred et à Claudine il y a quelques jours, mais c'est une grâce que Dieu nous a faite, parce que si on est encore ensemble, si on est ensemble, c'est parce que Dieu nous a fait grâce et nous a aidés, parce qu'on voulait que ça change. Je me souviens, j'écrivais, moi, ma misère, mes incompréhensions, parce qu'on était deux commandants, j'avais un caractère de bourricot, je dis les choses comme elles sont. Et j'écrivais ma misère sur des papiers, tout ça, et je mettais ma plainte sur par écrit. J'étais au boulot avant que les gars ils arrivent. Je mettais tout ça, ma plainte par écrit, etc., juste avant qu'ils arrivent. Quand j'avais déversé mon cœur sur des papiers que j'écrivais, je déchirais pour que personne ne les trouve. Mais cela, c'est resté intériorisé à l'intérieur de moi. Et c'était difficile. Et hier, avant-hier, dans la nuit, je suis réveillé, 3h du matin, quelque chose comme ça, par ce mot, par ces deux mots, voici l'heure. Cette parole, j'arrivais pas à m'endormir. Voici l'heure. Voici l'heure. Alors, voici l'heure de plein de choses, on a parlé d'autres choses. Voici l'heure. J'ai dit, Seigneur, voici l'heure. Et après, il me dit, Alors pour moi, voici l'heure de leur porter, voici l'heure de leur dire, voici l'heure de leur annoncer. De leur annoncer quoi? Qu'aujourd'hui, il y a une solution. Il n'y en a pas 36, vous savez. Il n'y a pas 36 solutions. Parce que si on veut avancer avec le Seigneur, si on veut réapprendre à marcher avec Dieu, si on veut grandir avec vérité et sans mascarade, on sait bien ce que c'est maintenant, hein, avec les masques, sans mascarade, c'est-à-dire en montrant notre visage tel qu'il est, sans avoir double face ou jouer double feu, double jeu. À partir de là, si je veux cela, mon être intérieur, mon cœur peut être changé parce qu'il y a une volonté de ma part, il y a un désir de ma part de ce que les choses doivent changer. Et toute chose peut encore changer. Et ça, j'en suis convaincu, si tu le veux, si tu le veux, et vous savez, ça ne tient qu'à un mot. Un seul mot dans le couple. Un seul mot. Ce mot, c'est pardon. Le pardon dans le couple. Et aujourd'hui, je dois faire connaître, annoncer, avertir, parce que le Seigneur a dit c'est l'heure. Et que si vous êtes là, ce n'est pas le fruit du hasard. Même si vous êtes là pour la première fois, je ne sais même pas si vous êtes marié, je ne sais pas si vous avez un conjoint, je ne sais rien, je ne sais pas, je ne vous connais pas, je ne sais pas si vous avez l'intention, je ne sais. Je parle aux jeunes, peut-être aussi aux jeunes qui sont fiancés ou alors qui ont des projets après, plus tard, de se marier, parce qu'un jour ça arrivera. Pour que Dieu, par son esprit, intervient et que le miracle glorieux et merveilleux de mon Père soit manifesté dans les cœurs, dans vos cœurs, dans nos cœurs, dans ceux qui nous écoutent, là. Un jour, Dieu m'a parlé au travers d'une caméra. J'étais assis devant mon ordinateur et cette personne a cité comme ça du moi, il m'a dit « Daniel ». Et il m'a dit des choses, conduit par le Saint-Esprit. Et j'ai vu ce doigt là qui se pointait sur moi. Vous savez comment que les choses se remettent en place à l'intérieur de notre cœur quand c'est comme ça? Parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre, et t'es loin de t'imaginer que Dieu peut te parler comme ça. Parce qu'il prend le moyen qu'il veut pour nous parler, et c'est ça qui est extraordinaire. Mais il sait comment nous parler parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Mieux que nous-mêmes. Tu comprends? Alors je vais parler aux hommes. Mes bien chers frères, hommes, et vous savez, je me suis beaucoup parlé à moi aussi. Celle qui est à côté de toi dans ta vie, la femme qui est à côté de toi dans ta vie, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Alors tu peux peut-être dire, mais oui, mais moi je ne connais pas Dieu, je ne connaissais pas Dieu à cette époque. Mais tu crois que Dieu ne connaît pas toutes choses? Et que tu le connaissais ou que tu ne le connaissais pas, les choses ont été permises et conduites par lui pour que tu rencontres celle qui était à tes côtés. Et tu sais, je vais te dire un autre truc. Je te parle parce que mon épouse m'a dit un truc ce matin. Même si ton épouse a vieilli, parce que forcément qu'elle vieillit, mon frère, certainement elle vieillit. Elle vieillit. Et puis quand elle vieillit, qu'est-ce qui se passe? Son corps change. T'es pas d'accord, mesdames? Qui est entré dans l'âge. On n'a plus le corps quand on est 20 ans ou 30 ans. Hein, ma soeur, c'est pas vrai? Mais oui! Parce que c'est comme ça, on vieillit, le corps change. Et puis le corps change parce qu'elle a porté tes enfants, mon ami. Son corps a changé parce qu'elle a porté tes enfants. Et aujourd'hui, si elle, que Dieu a placée devant toi, est avec toi, est à tes côtés, si tu vois qu'elle a vieilli, qu'elle a changé dans son corps parce qu'elle a porté ses enfants ou autre chose. Si elle est à côté de toi, quelqu'un, ton épouse est diminuée, qui est dans l'infirmité, qui est dans la maladie, que la dépression l'a diminuée pour des choses. Si son caractère est difficile, si son caractère à elle, à ton épouse, est difficile, peut-être que ce caractère difficile relève d'une misère intérieure, une douleur intérieure, une incompréhension intérieure que toi, tu n'as pas compris parce que mon ami, mon frère, parce que tu n'as pas pris le temps de te poser et pour réfléchir. Et ça, il ne faut pas que tu oublies une chose, c'est que elle, la femme qui est à côté de toi, elle est ton épouse. Celle que tu as tellement aimée quand tu, l'as rencontrée. Celle que tu as tellement aimée quand tu l'as rencontrée. Et que maintenant, peut-être, tu l'aimes un peu moins. C'est dur ce que je dis. Mais je suis dans l'obligation de vous le dire. Je suis désolé. Non, je ne peux pas être désolé. Les choses sont ainsi. Quand je parle ainsi, vous ne savez pas ce qui se passe dans mes entrailles. Vous ne connaissez pas ce qui se passe à l'intérieur de mon cœur et le déchirement qu'il peut y avoir. Le psaume, le proverbe, je veux lire ce. Le chercher pas. C'est juste un verset. Il dit, le proverbe 12, verset 4, il dit, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Alors, il y a des gens qui disent, ouais, femme vertueuse, ouais, c'est bon, oh, oui. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite. Hein. Parce que tu sais pourquoi elle n'est pas parfaite? Parce que toi, tu ne l'es pas non plus. Et ça, il faut bien que tu le comprennes. Ta femme n'est pas parfaite parce que toi, ton mari, tu n'es pas parfait. Alors, vertueuse, pourquoi? Quand il dit, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Vertueuse, simplement parce qu'elle elle est active. Ou elle a été active. Et que la vie a été faite ainsi qu'elle s'est retrouvée diminuée. Mais elle a fait prospérer ta maison. Elle s'est occupée de ta maison. Elle s'est occupée de tes enfants. Elle s'est occupée de toi. Et quand il dit c'est une femme vertueuse et qu'elle est, elle est la couronne, elle est une femme vertueuse est la couronne de son mari. Elle est la couronne, c'est-à-dire qu'elle est l'honneur. Elle est la joie. Elle est la satisfaction de son mari. Et quand tu regardes un peu les textes bibliques, tu t'aperçois d'une chose. C'est que elle est la satisfaction de son mari qui craint Dieu. C'est pas pareil. Parce que l'homme a tendance à se défausser par moments. Je suis le patron. C'est dur, hein? Mais je suis un homme, n'oubliez pas. Hein? De l'homme qui craint Dieu. Ça veut dire que quelque part, l'homme, avec son épouse, qui voudrait qu'elle soit vertueuse, eh bien, il faut d'abord qu'il comprenne que lui, il doit avoir la crainte de Dieu à l'intérieur de son cœur et avoir une relation avec lui. Parce que si tu as ta relation, comme je disais tout à l'heure avec Jonathan, si tu as une relation avec Dieu, si on a une relation avec Dieu qui est simplement éphémère, le matin quand tu pars et tu dis « Bon Seigneur, bénis ma journée, bénis ma femme, bénis mes gosses, bénis tout ce que tu veux, Amen. » Et là, tu as fait ta bonne action et tu es tranquille et tu dis « Je suis couvert, rien ne peut m'arriver, Dieu me protège. » Ça, ce n'est pas une relation, on en a parlé. Quelques années, on en a parlé, on a pris le temps. Ça, c'est pas une relation, c'est pas une vie. Non, c'est une prière porte-bonheur, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Mais celui qui craint Dieu, c'est celui qui a accompli ses commandements et qui fait sa volonté, qui aime son prochain comme lui-même, qui aime son épouse, qui aime ses enfants, qui aime les âmes, qui aime servir Dieu, qui aime l'honorer, qui prend le temps de prendre de temps avec lui. Ton épouse, tu dois la porter. Tu dois l'encourager. Je vais vous dire un truc qui ne va pas vous plaire non plus. Qui ne va pas nous plaire, nous, hommes. Arrêtons de les critiquer. Arrêtons de gémir. Toujours en propre juste. Et on est toujours innocent. Et elles sont toujours coupables. Arrête de te plaindre. Prie pour elle. Je prie pour mon épouse tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Parce que je l'aime, elle est ma chair, et parce que je veux que Dieu la bénisse et qu'on continue à marcher ensemble jusqu'au bout quand les jours s'arrêteront de notre vie ici-bas sur terre. Et qu'elle a du prix assez, aux yeux de Dieu autant que moi j'ai du prix aux yeux de Dieu. Parce que ton épouse, elle a autant de valeur aux yeux de Dieu que toi. Elle n'est point un instrument, elle n'est point une chose qu'on utilise quand on en a besoin. Mais elle a autant de valeur aux yeux de Dieu que toi. Et tu sais, un jour je pensais à ça. Ne crois pas qu'elle ne se rend pas compte que tu es différent et que l'amour que tu avais pour elle n'est plus le même que celui qui était avant. Ne te fais pas d'idée, hein. Dans son être intérieur, elle le sait. Tu dois la porter, tu dois l'aimer, tu dois continuer parce qu'elle est ta chair. Les deux ensemble deviennent une seule chair, ce qui veut dire que si elle souffre, tu souffres. Si l'homme souffre, la femme souffre. Comme ma femme a été, quand Claudine a été mal dans son corps pendant un bon moment, il y a environ 2 ans, tous les jours je priais pour elle. Tous les jours, parce que je peux pas dire. Pardonnez-moi. Elle a besoin de trouver en toi de l'assurance. Elle a besoin de trouver en toi du réconfort. Elle a besoin de trouver en toi, mon frère, une épaule sur qui elle peut se reposer. Et toi, tu dois prendre tes responsabilités spirituelles devant Dieu et devant les hommes. Mes bien chères sœurs, les choses sont différentes. Un homme n'est pas une femme. Moi, on m'a toujours dit, Daniel, t'es bourru, t'es rustique. Mais tout ça, c'est l'éducation. On parlait de l'éducation hier, avec Frédéric et Claudine Carriol, on parlait de l'éducation et de là où on sortait les uns les autres. Et on comprend que on peut réagir d'une manière différente. Moi, j'étais élevé dans les courons miniers, et je peux vous dire que la vie n'était pas rigolote. Mon père était un alcoolique invétéré et ma mère pesait 37 kilos. Et quand on n'avait rien à manger, ma mère récupérait du pain, elle faisait griller sur un poêle à charbon et on mangeait du pain comme ça, grillé sur le feu rouge, là, comme ça. On mangeait des tartines avec des grains de café dessus. Voilà, c'est tout. Manger des patates que ma mère coupait en rondelles et elle les faisait cuire comme ça sur le feu à charbon. Quand vous faites rougir la plaque, vous mettez les patates dessus. Vous êtes déjà goûté ? Goûtez un coup, vous allez voir. C'est formidable. J'en parlais il n'y a pas longtemps, on a parlé avec ma mère il y a quelques temps. Notre éducation n'est pas la même. On est différent. Suivant l'univers dans lequel vous êtes et que vous naissez, parce qu'on ne choisit pas l'endroit où on va naître, eh bien, notre intégration dans la vie est différente et notre conception des choses est différente. Alors, pourquoi j'étais bourru, etc., etc., et puis dur, parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à m'amollir. C'est français, ça ? Non ? À ramollir, ça va ? J'ai eu beaucoup de difficultés à me ramollir. Apparemment, ils me reprennent parce que j'ai des expressions qui ne sont pas tellement françaises. Bon, voilà. Alors, j'essaie au maximum de trouver les justes mots, mais par moments, ça fourche un peu. Bon, on ne voulait pas. Alors, Dieu a permis qu'à l'intérieur de moi, il y a un ramollissement qui se fait. Qui se fasse. Enfin bref, comme vous voulez, vous comprenez. Ça demandait du temps. Mais il a fallu que moi, j'y mette de la volonté aussi. Parce que si j'aimais ma femme, il fallait que je change. Et maintenant, je lui dis, hein, je suis que devenu une bonne poire blec, bon, un truc de ce genre-là, hein, bien molle. Mais je ne suis pas un mou. Je suis un homme qui aime son épouse. Et qui la comprend, et qui l'écoute. Alors bien sûr, on n'est pas parfait. Claudine dit, il y a 40 ans qu'on est mariés, ça fera 40 ans dans 15 jours. Il y a 40 ans qu'on est mariés et on se dit bien souvent, notre voyage de noces, on voudra le refaire maintenant. Parce qu'on a parlé de notre lune de citron. Pas de notre lune de miel, notre lune de citron quand on s'est mariés. C'était le démarrage en fanfare, pouf, tout était cadré. Et ça a demandé quelques années avant que ça, ça aille bien. Alors, mes bien chères sœurs, mes sœurs, on parle différemment à des femmes qu'à des hommes. Parce que l'homme est le chef, on dit l'homme est le chef de la femme. Il est le chef de la femme à condition qu'il sache prendre ses responsabilités et qu'il craint Dieu. Mais on peut parler plus franchement entre hommes et se dire les choses parce qu'on est des mecs. Hein, donc on peut parler ouvertement. C'est pour ça que je me suis permis de parler de la sorte. Mais à nos sœurs, qu'on appelle le sexe faible, mais à vrai dire, quand vous regardez dans les proverbes et que vous cherchez, vous rendrez compte que dans les textes originaux, on ne parle pas de sexe faible. On n'en parle pas. On parle de la femme qui est en mise en honneur. On lit toujours le proverbe 31, on dit « La femme vertueuse, cherche bien, tu vas voir ce qu'elle est réellement. » Ne te base pas simplement sur ta connaissance intellectuelle et de ce que tu as lu et de ce que la déduction que tu as faite. Mais ta femme, elles ont une valeur extraordinaire et elles ont une grâce de Dieu qui est belle aussi. Alors mes sœurs, mesdames, ton mari aussi a changé. Tu le sais ça? Il a changé. Bon, si t'es marié depuis 6 mois, il n'a pas trop changé. Sauf. Nous, ma femme m'a connu vraiment quand on s'est marié, parce que tu connais quelqu'un quand tu vis avec lui. Pas quand tu le vois une fois la semaine, hein, ça c'est pas vrai, tu connais pas. Tu connais quelqu'un quand tu vis avec lui, c'est pas pareil. Il y a une différence entre avoir un mari qui a un beau corps et qui, avec le temps, devient un véritable corbeau. Vous comprenez? Les choses sont différentes. Oui. Non, je prends les deux extrêmes. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Ah, ton mari aussi a changé. Lui aussi, il a vieilli. Mais il a vieilli en même temps que toi. Au cas où tu ne le saurais pas. Il a vieilli en même temps que toi. Et puis, son corps a changé. Et puis, peut-être qu'il s'est déformé aussi. Déformé peut-être par le travail. L'arthrose. Le dos qui est déglingué à cause du travail. Le gars qui fait de la maçonnerie, qui fait de la ferraille. Moi, j'étais chaudronnier pendant un temps. Et c'est dur, c'est des métiers qui sont difficiles. Et alors, on peut avoir des douleurs, des infirmités, parce que tu as été blessé dans un accident de voiture, hein, au travail, n'importe quoi. Tu as perdu ta force. Et plus le temps passe, et même si tu es dans la... Encore, tu te sens toujours... Claudie me dit de temps en temps, tu sais, Daniel, tu as plus de 30 ans. Mais j'ai dit bien souvent, je peux n'en laisser plus d'un seul carreau par rapport au travail, parce que c'est comme ça. Alors, nous, les gars, on est comme ça. On change aussi. Il y en a qui prennent... ils n'ont plus qu'un abdominal au lieu de 8 abdominaux. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent aussi. Les pectoraux changent. Mon épouse m'a dit, ça fait un des clins d'œil... ce matin, on déjeunait là où on priait à 7h là, ce matin, enfin, je ne sais plus ce qu'on faisait. Et elle me dit, dis donc, ils sont où tes pectoraux qui étaient si fermes et si costauds avant? Donc, ce qui prouve que elle voit la réalité et qu'elle s'aperçoit que j'ai vieilli aussi. Hein. Vous comprenez? Ça, c'est un autre clin d'œil de Dieu qui me disait qu'il fallait que je vous parle ce matin. Donc tu t'en es pas rendu compte, mais moi, elle me dit, mais pourquoi tu souris? Bah, parce que pour moi, c'était un clin d'œil de Dieu, même si je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. Ton mari peut avoir un caractère difficile. Il peut être dur, autoritaire, je l'étais. J'étais d'un caractère difficile. Je me suis arrangé. Hein. Je ne me passe pas de la pommade. C'est parce que Dieu m'a accordé sa bonté. Et il a ouvert mes yeux et je me suis rapproché de lui. Et quand je me suis rapproché de lui, les choses ont changé, ont pris une autre tournure et une dimension qui était totalement différente. Alors, un caractère difficile, autoritaire, mais pourtant, ton mari, les enfants que tu as eus, que tu as, ce sont les siens aussi. Et ça, il ne faut pas que tu l'oublies. Il ne faut pas non plus que tu oublies que tu es sa couronne, comme on l'a lu. Tu es sa couronne, donc tu dois être celle, qui l'aime et qui l'honore, comme le disent ces textes, et qui, avec tous ces mots qui sont dits dans la parole de Dieu et qui nous amènent à réaliser cela, pour avoir cette compréhension de la parole, qui nous amène à donner un sens à l'écriture. Le proverbe 18, verset 22, il dit « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. » Ça, c'est une réalité. Mais, parce que les femmes souvent connaissent ce verset. Et mesdames, il y en a un autre qui dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Celui qui trouve des textes, en hébreu toujours, ils disent « Celui qui trouve une femme vertueuse. » Mais c'est-à-dire qui donne le bonheur, etc., etc. Mais là, le mot est traduit différemment. Et il dit « Mais celui qui... » Ce n'est pas péjoratif, attention à ce que je vais dire. « Celui qui trouve une femme bonne, comme un homme qui est bon, une femme qui est bonne. » Saisissez-le dans le bon sens, parce qu'il y a des gens qui ont tendance à déformer et à vulgariser les mots. Hein. Donc, une femme qui est bonne. Sous-entendu, il a trouvé un grand bien. Il dit, puisqu'il dit au verset 22, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Il a trouvé un grand bien, il a trouvé un bien précieux. Voilà ce que veut dire l'entendu de cette parole par rapport à ce verset. Et là, on voit les choses différemment, mesdames. Ton mari n'est peut-être pas comme tu l'aurais souhaité, parce que tu l'as connu réellement une fois que tu t'es mis en ménage, tu t'es marié, tu t'es uni avec lui. Pourtant, quand tu l'as rencontré, lui aussi, comme pour les frères, comme pour les hommes, lui aussi, il était l'élu de son cœur, parce que c'est toi qui l'as choisi aussi. Vous êtes choisis ensemble, toi, madame, et l'homme avec qui tu es. Vous êtes choisis ensemble, et il a été l'élu de ton cœur. Tu lui as donné des enfants, tu as été un grand bien pour lui. Est-ce que tu es aussi un bien précieux pour lui? Ça, c'est un point d'interrogation. Une réflexion qu'il faut avoir, une introspection, se remise en question, et regarder son être intérieur, et se dire, bon Seigneur, où c'est que j'en suis? Les regards que tu as, comment pourrais-je dire, où est le regard d'amour que tu avais pour lui au jour de la rencontre? Et où est ton regard d'amour aujourd'hui alors que le temps a passé? Le regard peut avoir changé, mes bien-aimés, le regard peut avoir changé. Le regardes-tu avec les yeux de l'amour? Tu es sa couronne. Aime-le malgré. Je pensais à ce texte ce matin de Colossiens 3:13, qu'on l'adapte beaucoup à d'autres choses, mais qui dit supportez-vous. Supportez-vous les uns les autres. Alors bien sûr, on l'adapte bien sûr à tout notre monde avoisinant, et avec les chrétiens, etc., avec qui on vit. Mais la vie d'un couple n'est pas non plus de se supporter l'un l'autre, mais aussi de se comprendre, de s'aimer. Alors aujourd'hui, tout peut changer. Tout peut changer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, messieurs, quand j'ai fini ce petit intermède, tout peut te changer par un mot, le pardon. Le pardon. Alors, on pourrait dire, mais comment pardonner? Comment pardonner? Parce que je ne peux pas, je voudrais, j'en ai pas la force, ni le courage, rien ne sort de ma bouche. Bienvenue au club, parce que j'étais comme ça. Moi, demander pardon? Claudine me demandait pardon par moment, dans nos relations et dans nos difficultés et nos heurts. Moi, demander pardon, c'est pas partie de mon vocabulaire, parce que j'ai été élevé comme ça. On a été élevé un petit peu dans la dureté et c'était compliqué. Moi, demander pardon, c'est quelque chose qui ne faisait pas partie de mon vocabulaire. Et il a fallu des années et des années pour que les choses changent. Et rien ne sortait de ma bouche. Tout était intériorisé. Rien ne sortait de moi. J'étais un mur d'incompréhension. Alors, je vais te dire un truc. Écoute bien cela. Écoute bien ce que je vais te dire. aujourd'hui c'est l'heure. C'est la troisième fois, je vous le dis. Pourquoi je vous le dis depuis trois fois déjà? Parce que c'est le mot avec lequel le Seigneur m'a réveillé dans la nuit de vendredi à samedi. Et que samedi matin, j'ai compris ce que je voulais vous transmettre. Je ne sais pas si tu es assis à côté de ton épouse. Je ne sais pas si tu es assis à côté de ton mari. Je ne sais pas si ton mari est là. Je ne sais pas si ton épouse est là. Je ne sais pas si ton conjoint, ton concubin, on rentre pas dans ces choses-là, dans cette conversation-là. Moi, je regarde là, ici, maintenant. Et je me dis, mais tu as le droit, dans ce temps, ou en rentrant à la maison, de prendre sa main. Et toi, ma sœur, tu as le droit de toucher la main de ton mari, de ton époux. Rien que cela, ça peut être un combat. Rien que cela, faire un geste. Combien de fois on l'a vécu, non ? Claudine touchait ma main comme ça quand elle voulait la réconciliation. Parce qu'on en a une réconciliation, je vais vous dire. Mais moi, mettre ma main sur sa main, c'est trop compliqué. Parce que c'était une marque d'abaissement. Et Daniel Wolandowski, avec son éducation, s'abaissait. C'est pas possible. Et donc là, il a fallu qu'il y ait un travail. Et Dieu m'a accordé sa grâce. J'ai appris à aimer ma femme avec le temps. Et quand on pose, on se retrouve. On ne peut pas faire ça, on va dire. Pardon, c'est un petit peu de trop. Mais dans ce temps, peut-être que ton épouse est avec toi. Je ne sais pas, tu es marié depuis 1 an, 10 ans, nous 40 ans. Toi, peut-être 60 ans, je ne sais pas. Ou plus. Fais le pas. Fais le pas avec ta main. Ose approcher, tu sais. C'est on rigole, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est pas vrai. Faut pas se faire raconter de carabistou, comment on dit en français, d'histoire, faut pas se faire de film, c'est comme ça. On est comme on est, et la difficulté est là. Et quand tu fais déjà ce pas, t'as déjà gagné. T'as déjà gagné parce que tout va changer. Tout va changer parce que t'as fait le premier pas. Et Dieu, la Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Et il ne parle jamais pour ne rien dire. C'est ça qui est extraordinaire. C'est parce qu'il parle d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que quand il parle, il dit quelque chose. Et s'il dit quelque chose, eh ben c'est parce que tu dois comprendre, pas avec ta tête, avec ton cœur. Et là, les choses sont différentes. Pourquoi ? Parce que lui, s'il parle d'une manière ou d'une autre, comme à moi m'a parlé Daniel, moi je peux dire Justine, et je peux dire Catherine, et je peux dire ce que tu veux. Je peux dire Maurice, je peux dire Marcel, je peux dire Jules, je peux dire Christian, je peux dire... Voilà, on peut dire tous ces mots-là. Eh bien, Dieu, quand il nous parle, c'est parce qu'il veut le meilleur pour nous. Parce qu'il sait que le meilleur est devant nous. Mais seulement c'est à nous de pouvoir le saisir. Pourquoi il veut le meilleur pour nous ? Parce que Dieu nous aime. Car Dieu nous aime, rien n'est secret. Vous connaissez ce chant-là ? Ouais ou non ? Ou vous êtes trop jeune ? On ne me traitait pas de vieux, mais on me l'a dit il y a quelques jours. Et il veut le meilleur pour vous, parce que lui, Dieu, vous aime. Aimez-vous l'un et l'autre. Restaurez votre foyer. Restaurez votre maison. Ne rentre pas, tout à l'heure, là, midi moins le quart. Ne rentre pas en étant un auditeur oublieux. Dans quelques dizaines de minutes, tu vas pouvoir rentrer à la maison. Sois pas un auditeur oublieux, mais... Prends l'engagement ce matin de parler à ta femme et madame, sœur, prends l'engagement de parler avec ton mari, de vous exprimer l'un et l'autre dans le calme et la paix. C'est pas au plus fort la pouque, c'est-à-dire c'est pas celui qui parle le plus fort qui a gagné, vous comprenez ? Et ça, si tu te dis, et là tu pourras exprimer tes paroles de détresse. Tu pourras exprimer tes paroles d'incompréhension, tu pourras exprimer tes paroles de détresse, ce qui t'affecte, ce qui t'attriste, ce qui te fait mal, ce qui te fait pleurer. Mais ce n'est pas réservé qu'aux femmes.
Messieurs, c'est pour vous aussi. Si vous saviez les litres de larmes que j'ai versées quand j'ai compris ce que j'avais fait à ma femme et compris comment j'ai pu la trister et lui faire mal, intérieurement, dans son cœur. Et ça, il faut le saisir, il faut qu'on le comprenne. Parler, partager. Sans se juger. S'écouter parler. Écoute ta femme, écoute ton mari qui répand son cœur et qui te dit « Mais tu sais, j'ai tellement vécu ce moment difficile. Pour moi, ça a été un déchirement parce que tu ne comprenais pas. Mais tu ne vas pas crier sur elle. Et toi, tu ne cries pas sur lui. » Tu répands ton cœur, et quand tu répands ton cœur, tu ne rentres pas dans la colère, mais tu es dans la paix, parce que l'Esprit de Dieu en toi fait une œuvre extraordinaire et miraculeuse pour réparer les brèches qui ont été arrachées, qui ont été faites dans la construction de votre maison et de votre foyer. Et ce qui est au fond de vos entrailles, il faut que cela sorte. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais non, on laisse ça et on l'enterre dedans, on n'en parle plus. Mais c'est faux, archi faux. J'ai dit, tu fais une erreur. On doit parler, on doit exprimer, on ne doit pas garder ça au plus profond de nous, parce qu'un jour ou l'autre, de toute façon, ça va sortir. Et le jour que ça sort, alors là, ça pète, mais d'une manière qu'on ne peut pas s'en rendre compte. Alors, on s'exprime, on parle dans la paix, dans la sérénité, dans le calme, dans l'amour. On doit restaurer notre foyer, notre couple, notre vie, notre famille, nos enfants, c'est difficile à dire. Il y a des mots qui sont difficiles à dire. Ça aussi, ça ne faisait pas partie de mon vocabulaire. Madame, monsieur, frère, sœur, quand tu seras avec ton épouse et ton mari, et que tu auras parlé un petit moment avec elle pour t'exprimer et apporter tout ton ressenti, ta misère et ton vécu, et ta tristesse et tes incompréhensions, quand tu auras entendu l'autre te parler de la sorte, tu lui diras, je te demande de me pardonner. Je t'ai fait mal. Je m'en repens, je t'aime. Bien sûr, ce n'est pas une formule magique, comprenez bien. Mais c'est une reconnaissance de ce que par là on a compris qu'on avait fait du tort, qu'on avait fait du mal et qu'on a blessé celle qui est notre chair, celui qui est notre chair. Alors quand c'est comme ça que c'est passé pour nous dans le canapé qu'on était en Normandie. Pff, tu sais plus où t'habites quand c'est comme ça. Et là, les larmes coulent. Je ne sais pas si, messieurs, vous pleurez. Moi, ça ne me dérange pas de pleurer. Parce que pour moi, pleurer, c'est comme si je me libérais dans ces choses-là. Bien sûr, je pleure dans ma vie que je mène avec mon père, avec Dieu. Parce que je suis toujours interpellé par son amour, sa bonté, ce qu'il a fait pour moi, les chants qu'on a pris, ses interventions divines, le miracle qu'il produit dans nos cœurs, les changements qu'il a manifestés, l'immensité de sa grandeur qui se révèle à nous qu'on est des infimes grains de poussière sur cette terre, et l'attachement qu'il a pour nous. Je me dis quand même extraordinaire. Comment tu ne veux pas être touché dans ton être intérieur de ce que Dieu si grand, dans son immense bonté, a su parler à nos vies et s'occuper de nous. Quand ces choses paraissent, tes larmes, elles coulent. Et quand tu commences à prendre ta femme ou ton mari et que tu vous serrez les uns les autres, l'un l'autre, comme ça dans les bras, eh bien, vous joue contre joue. Et puis, je sais bien que vous n'avez peut-être pas en mode habitude d'entendre parler comme ça dans des lieux de rassemblement. Mais... Et puis là, ben, vous retrouvez vos joues sur les unes contre les autres, votre figure, tout ça, et les larmes se mélangent. C'est comme si les larmes se mélangeaient. On est trempé de partout, on est mouillé de partout, on s'embrasse. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est ça le pardon. C'est ça la réconciliation. Et puis après que toutes ces choses, si on revient un petit peu, c'est comme si on revenait sur Terre quelque part. Et puis là, à partir de là, tu reprends et tu te dis, bon, on prend des décisions maintenant. On va repartir sur une bonne direction. Mais pour prendre une bonne direction, il faut que tu lèves tes yeux vers le ciel. Tu n'as pas le choix. Autrement,
Tu veux retomber dans ce que tu étais, dans ta misère? Tu veux que ton couple reparte comme ça? Non. Lève tes yeux vers le ciel. Parce que c'est lui seul, en levant tes yeux vers le ciel, lui seul, Dieu, ton Père bien-aimé, Jésus-Christ qui t'a fait le connaître, Jésus-Christ en qui Dieu avait mis toute son affection, et il lui a dit, écoutez-le. Et Jésus, c'est la parole. Et la parole, c'est celle que je vous dis ce matin. Écoutez-la. Écoutez-la. Parce que c'est l'heure. C'est l'heure pour vous. C'est l'heure pour vous. À lui soit la gloire. On peut prendre 2-3 minutes pour prier. Je veux pas. Alléluia. Ce sont des choses difficiles à dire. Ben, pour moi, c'était... Je te demandais ton secours. Parce que je suis qu'un homme, mais dans ta grâce. Même si les choses n'ont pas été dites comme il faut, je sais que toi, par ton esprit, tu parles. Et c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Et qui manifeste ta bonté, ton amour à chacune de ces personnes qui sont là et que tu connais mieux qu'eux-mêmes, parce que tu connais l'être humain, l'homme, la femme qui est devant toi mieux qu'elle-même. Tu connais les pensées de son cœur, tu connais toutes choses. Et ce que je viens te demander, ben, avec tous ces bien-aimés qui sont là, parce qu'ils sont aussi tes bien-aimés, même peut-être ils ne te connaissent pas, mais tu les aimes, parce que ta nature, c'est là, c'est amour. Et je viens te demander, afin que dans ta bonté immense et dans ton amour, toi qui sondes les cœurs et les reins, que tu manifestes toute ta miséricorde en rétablissant la paix. Que chacun puisse vivre des temps de réconfort en ta présence. Peut-être que l'homme, la femme est là toute seule et que son conjoint est ailleurs. Mes pères, bénis-le, bénis-la. Tu le feras et qu'elle puisse trouver ce temps de se mettre à part dans un petit coin, dans une pièce, quand elle est tout seule, pour répandre son cœur devant toi, pour que cette personne aussi vienne vers toi et implore ta miséricorde et ta grâce comme Daniel l'a fait. Ben, là où tu es, il y a la richesse du pardon et la bénédiction. Et je te prie que ta parole manifeste toute ta gloire au travers de tout ce qu'elle va être dans ces minutes, dans ces heures qui suivent. Mon âme célèbre ton nom et te glorifie. Amen.